Lundi 13 juillet 2026, il est 18h et bientôt une minute. Vous écoutez Radio Campus Paris en FM 93.9 et sur le web. Et 18h un lundi sur deux, même le 13 juillet, c'est encore l'heure de la relève. Bonsoir et bienvenue pour La Relève, votre quinzomadaire radiophonique qui est devenu hebdomadaire de Radio Campus Paris, consacré aux nouveaux talents et aux récits originaux. À moins que ce ne soit l'inverse, ce soir on devrait parler de famille et d'enfants, ou peut-être de pas d'enfants. Mon invité est romancière. Et dans le combat entre l'homme et le micro, je vous préviens tout de suite, c'est l'homme qui gagnera ce soir. Bonsoir Camille Azoumé.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous venez de publier aux éditions Gallimard votre premier roman. Le titre « J'en ai pas », on pourrait dire que c'est un livre sur le non-désir d'enfant d'une jeune femme. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est le portrait d'une jeune femme d'aujourd'hui, tout en doute et en incertitude. Est-ce que ça vous va si je dis ça ?
Oui, parce que j'ai vraiment voulu écrire un roman du doute et non pas un roman qui porterait sur une narratrice qui sait exactement ce qu'elle fait dans la vie, où elle va et ce qu'elle veut. Elle est plutôt paumée.
Mais c'est un portrait, vous êtes d'accord avec ça ?
C'est un portrait, c'est même d'un certain côté un autoportrait.
Puisque c'est quand même c'était la question d'après, vous êtes en avance. Allez-y, c'est une autofiction, vous le revendiquez, vous le...
Oui, je le revendique parce que j'adore le terme d'autofiction. Parfois ça m'étonne qu'il soit tellement décrié, au sens où pour moi, autofiction, ça veut simplement dire partir de soi et tout déformer. Et comme c'est ce que je fais dans la vie en général, là je peux le faire dans un livre.
Vraiment dans la vie, vous déformez tout en général ?
Oui, j'aime bien grossir le trait ou diminuer en fonction de ce qui m'arrive.
Est-ce que... Alors dès lors, pourquoi il y a écrit roman ? C'est Gallimard qui vous a pas laissé le choix ? C'est ce que vous dites, la déformation est telle que ça devient... C'est intéressant parce que l'invité avant vous était au contraire revendiqué d'être un écrivain inventeur d'histoire.
Je revendique aussi le terme de roman, donc je ne suis pas à une contradiction près. Pourquoi roman ? Parce que je vais vous donner un exemple très précis. Pour que ça soit un roman et pour que je puisse traiter ce que je voulais traiter, il fallait que ma narratrice soit très seule. Donc il y a des personnes que j'ai écartées de la narratrice. Sa mère, que j'ai foutue au Brésil, dans la vraie vie elle habite à Paris. Sa petite sœur, que j'ai foutue à Nice, dans la vraie vie elle habite à Paris. Les deux s'occupent beaucoup de ma grand-mère dans la réalité. Mais ici, dans le roman, elles sont loin. Et la narratrice est en huis clos.
Parce que ça vous intéresse, oui, parce que donc avec ce réel, vous réinventez quelque chose, peut-être pour ce que vous dites là, c'est un peu comme un peintre finalement, vous éclairez plus certains aspects, vous en éloignez d'autres, vous, comme on dit par touche, là on atténue ou au contraire on accentue, c'est comme ça que vous voyez votre travail de romancière ?
Oui, c'est comme ça que je le vois et je pense que autofiction et roman peuvent très bien se combiner en réalité.
Vous êtes tout à fait convaincante. Alors moi, il faut que je vous dise quelque chose. Je crois que je ne l'ai jamais fait ici, mais aujourd'hui, il y a plein de premières fois. On ne va pas tout dire, mais il y en a plein. C'est que moi, j'ai une difficulté à vous interviewer. Je suis un homme, vous êtes une femme. Ça, je pense que ça s'entend même à nos voix. Et moi, j'ai des amis avec un E et qui n'ont pas eu d'enfants par choix ou qui n'ont pas pu en avoir, je ne sais pas, toujours. Et toutes m'ont toujours dit que c'était compliqué parce que les hommes portaient toujours un regard sur ce sujet-là. Et moi, en tant qu'homme, je me sens très mal à l'aise de vous interviewer sur ce sujet-là. Je tiens à vous le dire parce que je pense à elles, et donc je tiens à le dire, je pense à toutes les femmes qui, toute leur vie, ont subi les questions des hommes sur ce sujet-là. Comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous-même, vous avez connu Puisque bon, là, vous avez tout dévoilé, vous êtes dans l'autofiction, donc cette narratrice, c'est un peu vous.
Oui, elle s'appelle Camille.
Est-ce qu'il y a vraiment est-ce que vous aussi, vous avez eu ce problème des hommes qui toujours demandent aux femmes pourquoi elles n'ont pas d'enfants, alors que ça peut être d'ailleurs un choix de leur compagnon aussi ?
Non, en réalité, la principale personne qui m'a posé la question, c'est moi. Donc, je n'avais pas de problème lié au fait que ce soit des hommes qui me posent les questions. Je me suis d'ailleurs aperçue que moi-même, j'allais volontiers poser la question à des femmes autour de moi plus âgées qui n'avaient pas eu d'enfants. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée.
Mais là, vous êtes entre femmes, c'est différent.
Oui, mais justement, en faisant ça, grâce à cette démarche, je me suis aperçue que je n'avais pas l'idée d'aller interroger des hommes autour de moi qui n'avaient pas eu d'enfants. Et qu'en fait, c'était également important de récolter leur voix. Mais comme vous avez sans doute remarqué dans J'en ai pas, les hommes, je les écarte pas mal aussi. Il n'y a pas que ma sœur et ma mère que j'ai envoyées géographiquement un peu loin de la narratrice.
J'ai peur de dire une bêtise, mais il y en a deux.
Il y a deux hommes. Il y a monsieur le psy et Boris.
Dont un qui ne comprend rien, on peut le dire peut-être.
Qui ne comprend rien.
Enfin, qui ne comprend pas beaucoup de choses. J'ai un peu l'impression, je ne sais pas. Je ne juge pas.
Alors de qui parlez-vous ?
De Boris. Il y a une scène assez drôle avec un t-shirt, par exemple, avec un sweatshirt.
Oui, 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 la narratrice a voulu intégrer un cours de yoga pour femmes enceintes. C'est un vrai fantasme pour elle, sachant qu'elle n'est pas enceinte. Et elle se dit que pour s'immiscer, en fait, dans ce cours, le mieux, c'est d'avoir une tenue adéquate, un peu comme si elle se déguisait. Elle a un t-shirt à message. Et effectivement, Boris, qui est son compagnon dans le livre, n'entend pas le message du t-shirt comme elle l'entendait.
Souvent, voilà. Souvent, il n'entend pas très bien. Hein. Ou alors, il y a peut-être un peu des problèmes d'ouïe.
Alors, écoutez, c'est drôle que vous disiez ça. Parce qu'en réalité, moi, il me semble que ce Boris, il est là, il est un peu immobile, en fait. Il a quelque chose d'une forme d'inertie rassurante. La narratrice, au contraire, elle a la bougeotte. Mais je le trouve plutôt aidant, s'il faut choisir un terme qui a deux significations. Voilà.
D'accord, bon. Alors justement, on revient à eux, et au point de départ du récit, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais on va évoquer certains des thèmes. Elle décide de ne pas avoir d'enfant, et en gros, de ce jour-là, elle se met à faire des rêves étranges, puisqu'elle rêve d'un enfant tout habillé.
Oui, tout fait tout habillé.
Et qu'est-ce que vous... que j'ai envie de vous demander, comment vous êtes arrivé à ce point de départ-là, et surtout, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce point de départ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la contradiction, c'est le fait qu'elle ne sache pas.
C'est ça. Je souffre de terreur nocturne. D'ailleurs, on ne peut pas le voir, c'est la radio, mais aujourd'hui, je porte un t-shirt bleu, blanc, rouge pour remercier les supporters de foot qui m'aident à dormir la nuit, parce que j'ai besoin de bruit pour être apaisée et dormir mieux.
Maintenant, vous pourrez écouter les podcasts de La Relève.
Et en fait, il se trouve que donc, quand on a des terreurs nocturnes, on peut exprimer des phrases à voix haute. On peut avoir aussi du somnambulisme, ce genre de choses. Et j'ai vraiment commencé, pendant une période assez longue, à demander ce bébé tout fait, à l'exiger pendant la nuit. Ça me réveillait. En fait, cette phrase me réveillait. Donnez-moi un bébé tout fait. Donnez-moi un bébé tout fait, tout habillé. Je faisais des rêves, je le voyais, je le ramenais à la maison, etc. Donc mon point de départ, il est pris dans la réalité, si vous voulez. Et à partir de ça, je m'en suis voulu à moi-même d'avoir autant de ne pas être nette, en fait. Pas être nette avec mon désir.
Voilà. Mais on est rarement nette avec le désir, c'est le principe du désir. C'est qu'il est instable.
Il fallait passer de pas net à honnête, en fait. Et c'était ça, écrire pour moi.
C'est, l'écriture est une démarche d'honnêteté.
Oui, je crois.
C'est d'arriver à mettre les mots sur, peut-être même sur quelque chose de fluctuant, mais arriver à le dire.
Oui, on en revient au doute de tout à l'heure. Bien entendu, j'ai cherché des réponses dans les livres des autres, dans les paroles des autres. Je vous parlais tout à l'heure d'interroger des femmes plus âgées que moi qui n'avaient pas eu d'enfants. Mais il n'empêche que être honnête, pour moi, c'était justement reconnaître le fait que j'arrivais pas à prendre vraiment une décision ou à choisir quoi que ce soit. Je me sentais, et je l'écris à un moment donné parce que ma narratrice en cela est proche de moi, je me sentais incapable psychiquement d'avoir un enfant. Et ça passait par une forme de doute assez fluctuant. Voilà.
Quand vous dites honnête, vous l'écrivez en deux mots ou en un mot? J'avais pas tilté tout de suite. Vous dites je ne suis pas honnête ou je ne suis pas honnête ou les deux?
Je parlais bien de l'honnêteté avec un H. Mais ne me posez pas trop de questions d'orthographe parce que c'est un vrai problème chez moi.
Ah, mais non, mais là, c'est plutôt un joli jeu de mots qu'aurait fait sûrement la joie de monsieur Psy dans le livre, cette question-là. Alors, moi, je déteste qu'on parle des livres, qu'on fasse des livres à sujet. Parce que je trouve que si on fait ça, on enferme. Il y a tout un travail d'écriture, il y a tout un travail de construction de votre livre. Et en même temps, on est un peu obligé. Donc c'est toujours un peu difficile. Il m'a semblé que c'était un sujet très peu traité, malgré tout. Vous citez Jeanne Sautière, qui est autrice d'un livre qui s'appelle Nullipare, qui a été publié chez Vertical. Et donc, grâce à vous, j'ai appris que Nullipare, ça se disait d'une femme qui n'avait jamais accouché. Pas d'une femme qui n'a pas d'enfant, mais d'une femme qui n'a jamais accouché.
Exactement.
Vous en avez trouvé d'autres, des autrices, ou peut-être des auteurs, mais ça, j'ai des doutes sur le sujet.
Oui, alors peut-être que ce que je peux vous citer comme référence plus récente pour moi dans mes lectures, c'est le collectif Nullipare au pluriel, qui rend aussi hommage à ce fameux titre de Jeanne Sautière qui est paru en Point Seuil dans la collection féministe dirigée par Chloé Delhomme. Et c'est vrai que là, ce qui était formidable, c'est que c'était plusieurs voix associées autour de la question de la non-maternité, du non-désir d'enfant, etc. etc.
Et est-ce que vous aimeriez les rejoindre pour une nouvelle version?
J'adorerais. Pour parler du doute, toujours. Avoir cette posture-là.
que vous avez pu les approcher. Je crois que vous avez fait une signature avec Jeanne Sautière. Je crois avoir vu ça sur Internet.
Oui, j'ai eu cette chance parce que comme Jeanne Sautière est présente dans le livre, à force de la fantasmer et de la lire, moi, j'avais envie aussi qu'elle soit présente dans le livre, pratiquement sous la forme d'un personnage. Elle a accepté très généreusement que son livre soit aussi cité dans le mien. Nous nous sommes rencontrés et nous avons pu intervenir ensemble dans une librairie au Mont-en-l'Air. C'était vraiment un moment génial pour moi parce que là, il y avait de la transmission telle que je l'aurais souhaité, en fait.
Moi, j'avais écrit, vous parlez de transmission, c'est amusant parce que en préparant l'interview, j'avais écrit est-ce qu'il y avait une volonté de vous placer dans une filiation d'autrice? Est-ce qu'il y a une généalogie finalement? Moi, je déteste le mot nulli parce que j'entends nul et ça me gêne, mais peut-être que le stigmate a été retourné. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de cet ordre-là et de militant.
Moi, nulli part, j'aime bien parce que en fait, ça me fait penser à une bestiole, un coquillage, un insecte un peu indésirable, etc. Et je sais très bien que je peux être de cette famille-là, d'insectes indésirables, parfois. Voilà.
C'est dur.
Oui, mais je peux me sentir comme une sorte de bestiole, quoi. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer dans la vie. Et puis ce terme est une curiosité, on l'entend peu, donc c'était intéressant de s'en emparer. Jeanne Sautière, elle, dans son livre, s'en empare magnifiquement parce qu'elle interroge vraiment ce mot, elle le déplie, elle le déploie. C'est vraiment très très beau. Moi, je ne suis pas allée jusque-là dans le mien. Pour ce qui est de la filiation dont vous parliez...
De généalogie, finalement, de famille de cœur, peut-être.
Oui, il y a une famille de cœur, mais peut-être que les deux femmes que je citerai, ce sont les deux autrices qui ouvrent le livre, en fait, grâce aux exergues. C'est-à-dire Eva Balthazar, à qui je dois beaucoup, et Elfriede Jelinek, à qui je dois beaucoup aussi, à leurs œuvres, j'entends.
Alors moi, Elfriede Jelinek, je sais qui c'est, parce qu'elle a eu un prix Nobel de littérature,
oui.
Mais Eva Balthazar, je la connais pas. Alors on va parler des deux, alors... Parlez-nous des deux.
Oui, parce que ça, moi, c'est un honneur, hein, si je peux être dans leur généalogie à elles. Alors, Elfriede Jelinek, que j'ai connue grâce aux traductions de Yasmine Hoffman, chez Actes Sud, notamment.
Elle est connue aussi pour le film La Pianiste.
La Pianiste, exactement. En fait, c'est une autrice qui gêne beaucoup en parlant pourtant très simplement du corps, et notamment du corps des femmes. Donc, c'est ça que j'ai admiré chez elle.
Et
ça...
qui vous plaît, parce que vous écrivez un peu de cette façon-là.
J'essaye, en tout cas. Enfin, pour moi, ça serait un honneur de pouvoir gêner les lecteurs et les lectrices. Voilà. Et pour ce qui est de Eva Balthazar, j'ai commencé sa trilogie, qui est parue chez Verdier, qui est sublime, c'est traduit du catalan, par Mammouth. C'est vraiment le livre dont j'ai extrait une citation.
J'ai tenu dans mes bras une grande interrogation.
Oui. C'est ça.
C'est beau.
C'est beau.
Simple et c'est beau.
Ouais. Et en fait, tout ce qu'elle écrit, c'est simple et beau. Et parfois très drôle, parfois beaucoup plus dramatique. Et je vous ai parlé d'une trilogie parce qu'en fait, il y a trois livres. Donc, il y a Boulder, Permafrost et Mammouth. Et quand j'ai lu ces trois livres, vous savez, ces petits élans de jalousie que vous ressentez en vous disant « Mais jamais j'arriverai à cette puissance et à cette simplicité. » Mais voilà, donc je la mets en exergue, ça me console.
Alors moi, j'ai trouvé que dans votre livre, il y avait un côté, alors pas les 12, mais les 9 travaux de Camille. C'est presque parce qu'elle va donc voir un psy. Moi, je reviens à la Camille du livre. Hein. Mm-hmm. Elle va voir un monsieur psy qui lui fait faire des espèces d'exercices permanents. Il y avait cette idée d'initiation, parce que alors, je ne sais pas si on peut raconter, mais alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'elle va faire un cours de yoga, elle va interroger ses amis, elle va notamment, un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand elle va dans le magasin d'accessoires pour enfants, puis après on parlera d'autres choses, mais vous aviez envie d'écrire une sorte de conte initiatique ?
En tout cas, j'avais envie qu'il y ait une thérapie. Et quand je parle de thérapie, là, je parle vraiment de thérapie comportementale, mais je peux vous parler de déformation au tout début de l'émission. Ça, c'est ma version de la thérapie comportementale, évidemment. Le véritable psy que je vois était catastrophé par les méthodes de monsieur le psy dans le livre, n'est-ce pas ?
Ça me rassure un peu.
Mais moi, en fait, j'adore l'idée qu'on va vous faire faire des exercices pratiques un peu farfelus. Donc là, il y aurait l'idée que la narratrice doit rencontrer la mère qu'elle ne saura pas. Et ça va passer par toutes sortes d'exercices. Un exercice, une consigne par mois. Consigne à laquelle elle va se plier bien volontiers. Elle a un côté un petit peu docile.
Elle est bonne élève.
Ouais, elle est bonne élève.
Elle veut bien faire.
Elle est un peu butée, bornée, un peu docile en même temps. Elle combine pas seulement des qualités, évidemment. Et parmi ces consignes, je me suis amusée encore une fois à partir de fantasmes et de choses réellement vécues. Hein. Vous parlez de la boutique pour enfants, par exemple, donc de grands moments de honte, mais que j'avais envie de déplier dans le livre. Et parmi ces choses, il y a peut-être des épisodes aussi que j'avais plus de mal à raconter, mais autour de l'adoption, Voilà. Camille et Boris vont assister à une journée à l'issue de laquelle on leur donne un dossier pour potentiellement devenir parents adoptants. Ou... Voilà. Et ça, c'est des moments qui, pour moi, rentraient dans des formes de consignes et m'aidaient évidemment à documenter toute la démarche de la narratrice autour de la question de l'enfant, en avoir ou pas.
Est-ce qu'il y avait aussi une volonté d'être... De mettre de la fantaisie et de l'humour. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand elle doit essayer de devenir marraine d'un enfant d'une de ses amies, parce qu'elle s'y prend tellement mal, elle rate complètement, on peut le dire. C'est pas non plus un grand suspense, je pense qu'on peut le dire, les gens pourront le lire quand même. Donc elle essaie d'arriver, elle fait des cadeaux, elle veut être la meilleure marraine du monde.
Avant la naissance de l'enfant, hein, on prie.
Oui, oui. Mais ça, c'est parce que vous vouliez aussi alléger, donner un peu de fantaisie à ce récit qui pourrait être très, très triste, très grave aussi. Alors, est-ce que vous aviez un besoin d'équilibrer la tonalité ?
L'équilibre, pour moi, il était à trouver dans l'autre sens. C'est-à-dire que je dois toujours me calmer, parce que l'humour, j'ai un peu trop tendance à y avoir recours, dédramatiser, etc. Vous savez, dans les magazines féminins, quand j'étais plus jeune et que je lisais la phrase dédramatiser, par exemple, je lisais dédramatiser votre costume trois pièces avec des baskets. Et en fait, j'adorais ce terme. Sauf D'accord. que la dédramatisation, c'est un peu mon ADN, donc il faut que je me calme de ce côté-là. Et j'ai plutôt tendance à vouloir, je regrette que ce terme n'existe pas, mais assobrir et enlever l'humour, parce que j'aimerais pas qu'on considère que j'écris des romans drôles, par exemple. Ça me ferait
vraiment
trop de peine.
C'est pas drôle, mais moi je trouve que c'est plus de la fantaisie.
Ça me fait plaisir.
Il y a quelque chose d'absurde. Vraiment, je pense à ce passage-là, qui est très absurde, qui est émouvant en même temps. On ne fait pas que rire, parce qu'elle fait des efforts désespérés pour y arriver, cette pauvre Camille.
Oui, tout à fait.
Je parle encore une fois de celle du roman, je ne me permettrai pas en parlant de vous.
Non, mais vous pouvez vraiment parler des deux. En fait, la narratrice, effectivement, elle est désespérée, puis elle s'en sort encore plus mal que moi. Moi, vraiment, je me rappelle encore un café avec une très chère amie qui a inspiré l'un des personnages du livre, à qui j'ai dit « S'il te plaît, si t'as un enfant, il faut que je sois la marraine, tu comprends ? Il faut que je sois la marraine. » Voilà, ça part de ça.
Alors, jusqu'ici, on n'a pas... Vous l'avez un peu évoqué au début, il y a un autre personnage, parce que là encore, en vous lisant, moi j'ai pensé à des choses que j'ai lues récemment. On a parlé de réarmement démographique, on a vu que la population française allait baisser. Et j'ai vu notamment sur X et sur des réseaux sociaux, beaucoup d'hommes qui commentent ça en disant « c'est une catastrophe, ces gens qui n'ont pas d'enfants sont des égoïstes ». Et votre livre prouve exactement le contraire. C'est qu'on peut ne pas avoir d'enfants, peut-être parce qu'on est trop altruiste. Et il y a tout ce rapport avec cette grand-mère que vous racontez en alternance avec ces séances de thérapie, une très longue toilette que vous racontez sur 9 mois. Racontez-nous comment cette merveilleuse idée vous est arrivée.
Merci. Je commence par quand même souligner que, excusez-moi, réarmement démographique, ça me fait beaucoup rire.
Hein.
Parce qu'en fait, je trouve que c'est à la fois c'est extrêmement mal choisi et très bien choisi. Et je pense que ce terme va rester dans l'histoire. Donc voilà, ça va être une très belle expression à rentrer dans des dictionnaires. À part ça, pour ce qui est de la toilette, en réalité, c'est ce qui est venu en premier dans le livre. Avant même l'idée que j'allais parler du non-désir d'enfant et du doute de la narratrice, je savais
justement,
que je voulais...
C'est intéressant parce que je me suis demandé laquelle des deux histoires vous aviez voulu raconter en premier.
D'abord
l'histoire de la grand-mère.
Oui, d'abord le soin d'un corps âgé, d'un corps vieillissant et d'un corps surtout très vulnérable, puisque la grand-mère de Camille, donc cette narratrice, Arlette, qui est dans un EHPAD, est atteinte de démence. Elle a perdu certaines de ses facultés cognitives et par conséquent, se laver seule, ce n'est plus envisageable. Et c'est Camille qui la lave.
Et c'est très très beau, voilà. Comment vous le racontez.
Merci beaucoup. Merci.
Mais allez-y, hein, pardon, je ne voulais pas vous
couper. Non, vous ne me coupez pas, puis je suis extrêmement bavarde, vous avez vu, vous ne pouvez pas me déstabiliser. En fait, pour ce qui est de la toilette, ce qui est venu en premier lieu dans le livre, ce sont les morceaux de corps, ça correspond à l'ordre dans lequel, à titre personnel, je vais laver mamie. Et la narratrice fait la même chose, elle obéit vraiment à un ordre très ritualisé. Et c'est ainsi que j'ai pu un peu construire la structure du livre autour de parties du corps, du sexe, des cheveux, des dents.
Vous l'avez beaucoup travaillé, ça, pour arriver à être juste à ce point-là où vous avez... Alors là, je me suis vraiment demandé, est-ce que vous aviez une écriture évidente, c'était facile pour vous à l'écrire, ou est-ce qu'au contraire, il y a un énorme travail ? Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a un énorme travail, mais je voulais en être sûr.
Alors, En fait, c'est drôle que vous me posiez la question parce que je suis très complexée à l'idée de devoir faire des plans pour écrire. Je ne peux pas écrire sans avoir un genre de plan ou de structure qui soit assez précise déjà, s'il s'agit d'une structure. J'envie beaucoup les personnes dont j'ai l'impression qu'il y a une fluidité qui se dessine, y compris à travers d'ailleurs la structure du livre. C'est le cas pour Sigrid Nunez. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, « Quel est donc ton tourment ?» Et quand je lis ça, je me dis « Mais c'est pas possible, cette femme, elle travaille sans plan. » Ça, je ne sais pas comment dire, ça se sent en lisant. Et je trouve ça sublime. Si un jour je peux atteindre ça, je serais très contente.
On va écouter un peu de musique et on vous retrouve Camille Azoumé, autrice de J'en ai pas aux éditions Gallimard.
J'ai mal aux jambes, mais je prie qu'elle ne me lâche pas ici. Prototype, mes chimiques cobayes. J'écrase ma tête contre la vitre. Je veux pas qu'on arrive trop vite. On n'est pas câblé pareil. Je suis dans un monde parallèle.
Voilà, c'était Mickey Héroïne sur Radio Campus Paris 93.9.
Je veux être une vache, pas la fille de ma mère. Je veux être une vache, pas amoureuse de toi. Je veux me sentir libre d'être calme. Je veux être une vache qui jamais ne va connaître le genre d'amour dont on tombe amoureux. Une vache royale avec des hanches aussi amples et saines qu'un grand magasin. Une vache que le fermier trait à genoux, qui à sa mort sentira l'aurore se pencher sur elle comme une prairie et lui mouiller les lèvres. Je veux être une vache, rien de compliqué. Une cargaison d'herbe, un hamac de lait sirupeux qui flotte, se berce, bave sans être dérangé par l'écho des sabots en route vers la ville. Des bottes qui crissent, des remorques suspectes garées sur les bas-côtés, des restaurateurs sans scrupules aux yeux rougis qui, tirés de leur lit fétide, déboulent dans un monde de homards et de téléphones chauds. D'avions cargo japonais profilés repassant au fer la nuit, chargés de doux désirs comme des pots de confiture. Les Tibétains ont 85 mots pour décrire les états de conscience. La vache abrutie que je veux être n'en a aucun. Elle ne parle pas, elle ne fait pas le ménage, ne se soucie pas de son apparence, elle ne vagabonde pas. En sûreté, au milieu de sa flotte d'amis blanches tondues rats dont elle a besoin, qu'elle aime et qu'il aime, rien que ça, cette ferme dont je veux être moi aussi, une vache. Ne viens pas me chercher, ne surgis pas dans la clarté du soleil pour venir à ma recherche, tout noir avec tes gants, tes bas, tes manches et ton grand chapeau. N'appelle pas le conducteur du tracteur. N'appelle pas les voisins, ne fais pas ton gâteau aux fruits spécial pour fêter mon retour. Je ne rentre pas à la maison, je vais être une vache comptée par le vacher, je vais être une vache et tu ne vas pas me reconnaître.
Merci beaucoup. Vous pouvez juste nous dire de qui est ce poème. Vous êtes arrivé, vous m'en avez parlé, je vous ai proposé de le lire. Je trouve ça très généreux. D'habitude, des fois, on lit des extraits des livres des auteurs. Vous avez eu envie de lire quelqu'un d'autre. Alors,
oui.
Allez-y.
J'ai eu envie de lire ce poème de Selima Hill, qui est issu de l'anthologie de poésie britannique au tournant du XXIe siècle, L'île rebelle, publiée chez Gallimard dans la collection Poésie Gallimard NRF.
Est-ce que je peux vous demander si dans ce fantasme d'être une vache, il y a finalement l'idée qu'il n'y a pas besoin de choisir, c'est finalement plus simple?
Oh, moi, je pense que même une vache doit être soumise à des choix très importants dans
et
la vie.
Et qu'elle doute parfois.
Oui, j'en suis certaine.
On plaisante, puisqu'on en est à faire des ponts entre des œuvres. Moi, je voulais parler, alors je ne sais pas si ça sera repris à la rentrée, mais il y avait à la Comédie Française, une pièce de Doug... Alors, la Comédie Française, Hors les murs, c'était au Petit Saint-Martin. Jusqu'à la semaine dernière, il y avait une pièce qui se jouait de Duncan Macmillan, qui s'appelle « Séisme », et qui était mise en scène par Robin Ormand, et qui racontait l'histoire d'un couple qui avait des difficultés, notamment au moment de savoir s'ils allaient ou pas avoir un enfant. Et dans le petit document qui distribuait à l'entrée, il y avait une interview des deux acteurs, dont Jean Chevalier, qui disait cette chose, qui disait, en parlant de cette pièce, « J'y entends aussi la lutte intérieure qu'engage l'idée d'avoir un enfant, être vulnérable, laisser cet enfant exister comme un sujet, non comme un objet. Séisme questionne cette capacité à aimer. » Est-ce que vous diriez que votre livre aussi questionne cette capacité à aimer?
Oh oui, je pense, oui. Capacité à aimer un corps qui n'est plus le même, une personne qui n'est plus la même, qui semble être aux yeux des autres quelqu'un d'autre que ce qu'elle a été. Là, je parle de la grand-mère de la narratrice. Vous savez, je suis souvent très interloquée quand on me dit « Oui, en fait, tu dois faire le deuil de ta grand-mère telle qu'elle était, par exemple. » Et pour la narratrice, je pense que c'est exactement la même sidération. Non, parce que je fais le deuil de rien, en réalité. Au sens où la narratrice, comme moi, nous apprenons à connaître une personne et ses évolutions.
Ces mutations presque, ouais, on est dans les mutations.
C'est ça, on est dans la métamorphose, un peu comme dans « Je veux être une vache » de Selima Hill, si vous voulez. La grand-mère, Arlette en l'occurrence, mamie, elle est en train de se transformer. On ne sait pas trop en quoi, mais la narratrice la suit dans cette métamorphose-là, je crois.
Vous croyez aux métamorphoses? Vous pensez qu'une vie, c'est une suite de métamorphoses?
Ah oui, à la fois corporelle et mentale, oui, je crois, oui.
Dites-nous un mot, parce qu'il y a une très jolie illustration en bandeau de votre livre pendant la pause musicale. Je vous disais à quoi ça m'avait fait penser. C'est un dessin de Rachel Lewitt, qui d'ailleurs, il y a peut-être un énorme point commun avec votre livre, c'est que le dessin a l'air très simple et en même temps c'est très profond, puisqu'on peut y voir beaucoup de choses. Moi, j'y voyais une femme coupée en deux, un numéro de magie. Oui. Allez-y.
Bah, je suis très contente en fait pour votre référence, parce que je repense à Orson Welles, vous savez, quand il faisait des tours de magie, et je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu dire qu'il avait fait un tour avec Rita Hayworth, et c'était la femme coupée en deux, mais verticale, debout, ce qui changeait en fait du numéro habituel où on coupe la nana en deux, mais là elle est allongée, quoi. Là ça change, elle est plus puissante. En ce qui concerne ce bandeau magnifique, je le dois à l'éditeur Jean-Marie Laclaftine, qui a demandé au studio chez Gallimard, donc au graphiste, de faire une recherche autour de l'absence, du vide, du creux. Donc merci beaucoup et merci à Anne Vijoux, qui est l'éditrice du livre, qui elle en fait est allée voir ensuite les graphistes pour voir l'image, pardon, pour demander à voir l'image d'origine, qui est cette image là avec une.
Qu'on voit pas du tout à la radio, c'est ça qui est bien.
Voilà, qui est sublime.
Qui est un jeu entre la courbe et le trait droit. Et dans votre livre, il y a aussi ça, un jeu entre... on pourrait s'amuser si on faisait un commentaire de texte. Il y a beaucoup de références au rectiligne et aux courbes. Je crois que la narratrice n'aime pas les lignes droites, si je me souviens bien. Ou c'est le contraire, peut-être.
Moi, je me demande vraiment ce qu'elle aime, vous savez, en termes de géométrie. Si je parle du bandeau, évidemment, ça sera plus simple d'aller voir... Là, on parle aux personnes qui nous écoutent, n'est-ce pas ? D'aller regarder la couverture et le bandeau. Mais imaginez une silhouette un peu à la Persépolis, quand même, ne serait-ce que parce que ce bleu et ce noir peuvent nous y faire penser, d'une femme qui est assise sur les genoux, les fesses reposant pratiquement sur ses talons, et elle contemple son ventre, elle ouvre un tiroir avec la main. Le tiroir est au niveau de son ventre. Qu'est-ce que ce tiroir ? Est-ce que c'est un tiroir caisse ? Après tout, la narratrice se plaint parfois de ne pas avoir suffisamment de fric. Est-ce que c'est un tiroir alimentaire comme un frigo, un bac de congélo ? Elle se plaint aussi d'avoir des traces d'anorexie en elle qui persistent. Ou est-ce que c'est vraiment la maternité, le ventre creux ? Voilà, on peut se poser cette question en regardant le dessin.
Pour commencer l'émission, j'aurais voulu connaître votre rapport, pour terminer plutôt, le temps passe vite, j'aurais voulu connaître votre rapport à l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez... Parce que vous êtes quelqu'un, alors je le dis parfois, mais en vous, je crois que c'est le sommet. Après, je ne suis pas non plus Sherlock Holmes, j'emploie pas des armées de détectives pour savoir, mais j'ai trouvé très peu de choses sur vous. Votre éditeur dit très peu de choses, dit que vous vivez et travaillez à Paris. Est-ce que vous avez déjà publié ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui rêvait d'écrire depuis toujours ? Et là, vous avez enfin eu cette étincelle. Vous disiez avec, c'était d'abord avec l'histoire de Mamie que vous vouliez raconter. Comment ça vous arrive ? Comment c'est arrivé ? C'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps ? Je crois que l'éditeur dit que vous donne même votre âge. Je ne sais pas si je vais le donner, ce n'est pas la peine.
J'adore qu'on parle de mon âge.
Vous êtes né en 88, je crois,
oui.
De mémoire. Hein.
Oui, c'est ça. Je suis né en 1988. J'aurai 38 ans à la fin de l'année, j'aime bien cet âge, mais je fantasme surtout sur 40, j'ai hâte d'avoir 40 ans. D'ici là, pour vous parler de l'écriture...
Vous avez beaucoup écrit déjà ?
J'ai écrit un peu, mais en fait, puisque vous me demandez l'écriture, d'où ça vient, ou pourquoi c'est important, etc. Je dirais qu'à l'école, ça se passait pas très très bien pour moi. Et en fait, quand j'ai enfin su écrire, ça a été une vraie bataille pour moi de comprendre comment on lit et comment on écrit. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'appartient, qu'on ne pourra pas me retirer. Et surtout, on peut m'aimer grâce à ça. J'ai commencé à écrire des textes. Je feuilletais les Terres Sauvages chez papy et mamie. Et grâce aux Terres Sauvages, j'ai eu l'idée d'écrire des histoires. En l'occurrence des criquets de Madagascar qui devaient fuir l'île parce qu'il y avait du flytox qui arrivait dans les grands magasins. Voilà, s'échapper grâce à des sacs à patates, oui, je m'en rappelle encore assez bien.
Vous étiez petite alors ?
J'étais petite, mais pour la première fois, on a lu mon histoire en classe. Et là, je me suis dit, waouh, je vais écrire et peut-être qu'on va m'aimer.
Et qu'est-ce qui s'est passé entre cet âge-là et maintenant ? Vous avez mis du temps à trouver la bonne histoire ? Vous avez des tas de livres cachés chez vous ? Non, mais il y a plein d'auteurs hein, comme ça.
Non, j'ai eu un petit traumatisme lié à l'écriture, vous voulez que je vous raconte ?
Moi, je vous force à rien, vous savez, ici, vous faites ce qu'on veut.
J'ai écrit une première lettre d'amour très longue et manuscrite de 4 pages à un homme. Et en fait, sa réponse a été 27 fautes d'orthographe, point. Et à partir
Quelle
de
horreur.
Là, j'ai pas écrit pendant des années. Et puis, grâce aux ateliers d'écriture de la fac, donc vive l'université, les ateliers d'écriture de Dominique Barberis à la Sorbonne et les ateliers d'écriture de Anne Portugal à la Sorbonne Nouvelle, je me suis remis à écrire.
Alors on répondra juste à ce goujat avant de se quitter que 27 fautes d'orthographe peut-être, mais si j'en crois à votre livre, aucune faute morale. Donc c'est peut-être lui qui l'a faite celle-là, donc lui il en a fait une belle grosse faute.
J'espère qu'il écoutera l'émission.
Moi je lui souhaite aussi, vraiment, je dis pas ce que je pense parce que ce serait grossier et que j'ai pas le droit. Allez, on va se quitter, merci beaucoup Camille Azoumé, je redonne le titre de votre livre, J'en ai pas, c'est un roman, c'est paru aux éditions Gallimard, l'émission était encore préparée et présentée par Christophe, la réalisation était assurée par l'indispensable Pablo, cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus. Vous pouvez maintenant aller au bal du 13 juillet si vous avez envie ou écouter la suite des programmes de Radio Campus Paris. Bonne soirée, merci à vous.
Merci.